explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainets, tu connais ?
Vous avez croyé que je vais plus regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Sur Terre, certains endroits nous sont difficilement accessibles, à nous, les êtres humains, parce qu'ils sont trop loin, trop haut ou trop profond, parce qu'il y fait trop chaud ou trop froid. Alors est-ce par manque d'imagination ou par vanité, nous décrétons un peu vite que si ces endroits sont si inhospitaliers pour nous, ils le sont pour tout le monde et qu'aucune vie ne doit s'y plaire. Par exemple, pour les abysses, on a longtemps pensé qu'à 8 km de profondeur, avec la pression et l'obscurité, il ne devait pas y avoir âme qui vive. On sait aujourd'hui que c'était faux. Même erreur pour les parois rocheuses en haute altitude. Longtemps, les botanistes ont estimé qu'il ne devait pas y avoir sur ces parois verticales et minérales, exposées à des climats rudes, une flore exceptionnelle. Encore fallait-il y aller et, une fois sur place, savoir observer. En réalité, il y a là de nombreuses espèces de plantes à fleurs aux propriétés et aux capacités d'adaptation remarquables. Des plantes qui témoignent de l'histoire de notre planète et en disent beaucoup sur les mécanismes de l'évolution. Il était temps de réparer cet oubli. Aujourd'hui, avec une cordée de botanistes, nous partons étudier la flore verticale des hautes montagnes.
Général ! Général, j'ai fait une découverte ahurissante, regardez.
Le temps d'un bivouac.
Je vous envie, Hermoso, c'est beau d'être jardinier. Quelques fleurs et vous êtes aux anges.
Je suis botaniste. Ceci, général, est une nouvelle espèce d'orchidée. Je l'ai appelée Orchidus hermohoïde.
Sur France Inter.
Vous êtes sûr du nom ?
Oui.
Daniel Fievé.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Sébastien Lavergne et Cédric Dantan.
Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Lavergne, vous êtes chercheur en biologie évolutive au CNRS, au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble. Cédric Dantan, vous êtes botaniste au service scientifique du Parc national des Écrins et vous êtes l'auteur de Flora Verticalis, un guide botanique à l'usage des amateurs de verticalité aux éditions Le Naturographe. Et puis vous êtes tous les deux des alpinistes aguerris. Vous allez donc nous emmener à la découverte des fleurs qui poussent sur les parois des hautes montagnes que vous connaissez si bien. Les auditeurs peuvent vous adresser une question sur franceinter.fr ou la page Facebook de l'émission. Et puis à 17h, nous resterons en montagne pour une marche de 400 km avec Anne Vallès qui a effectué le parcours d'une transhumance dans les Alpes. Voilà pour les étapes montagnardes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay et préparée par Alexandre Chaune et Sophie Vaux.
Ok Seb.
Ça accroche.
La pratique de l'alpinisme, c'est un bonheur immense. Mais quand en plus tu rencontres, enfin, quand t'es botaniste, tu rencontres des espèces qui sont réputées comme très très rares ou qui sont peu observées, parce que justement elles se nichent dans des fissures de parois, c'est le pur bonheur, ouais, c'est un peu jouissif. C'est le plaisir de la découverte, si tu veux.
Alors tu vois rien par là ?
Il y a une coulée d'androsas là, Seb, il y en a partout.
Elles sont dans les fameuses canures Stoffer, justement. Le nom de ce passage.
Bon, tu vas faire un relais au-dessus, de toute façon.
Oh là, il y en a encore ici, c'est fabuleux.
Extrait du documentaire sur les îles du ciel, hein, dont on aura l'occasion d'entendre plusieurs extraits dans cette émission. On vous entendait, Sébastien Lavergne et Cédric Dantan, en train d'escalader une paroi dans les Alpes et de vous émerveiller, hein, devant ces petites fleurs que vous croisez sur votre passage dans les anfractuosités de la roche. Dans ces endroits, situés en haute altitude, où la roche est très présente, les fleurs ne sont pas si rares que ça, Cédric Dantan ?
Ben oui, comme vous l'avez dit en introduction, encore faut-il y aller pour les voir. Donc, mais, une des particularités de notre travail, c'est d'avoir un petit peu exploré tout ça, et puis d'avoir découvert une biodiversité qu'on sous-estimait très largement.
C'est ça, hein, Sébastien Lavergne, ça fait une dizaine d'années que vous travaillez tous les deux ensemble et que vous découvrez petit à petit la richesse de cette biodiversité qu'on trouve sur les parois et qu'on a trop longtemps ignorée, méconnue.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'alpinisme, on voit souvent ça comme une quête sportive, esthétique ou spirituelle. Et puis, bon, je crois que nous, on a le plaisir d'y rajouter une dimension scientifique. Ouais. Et on fait souvent des découvertes assez surprenantes. Et au final, on n'a jamais trouvé un seul sommet où on n'a pas trouvé de plantes.
Oui, il y en a partout. Encore fallait-il aller les voir. À quel genre de questions vous essayez de répondre quand vous allez comme ça en quête de ces petites fleurs, hein, ces fleurs de montagne, ce sont des petites fleurs. Cédric Dantan ?
En recherche des particularités, on pose une question. Là, c'est un peu de savoir d'où elles viennent, comment se sont-elles adaptées. Et en voulant répondre à une question, on en génère 4, 5, 6. Donc au fur et à mesure du temps, en fait, de nouvelles questions sont apparues. Donc il y a cette première question originelle qui a émané de Sébastien sur l'adaptation de, et l'évolution de ces plantes. Puis est venue des questions sur y a-t-il une évolution à court terme, des questions sur ne serait-ce que quelle est cette biodiversité, comment fonctionne-t-elle, quels sont les pollinisateurs par exemple, les disperseurs de graines. Donc ça, encore une fois, ça a généré un grand nombre de questions auxquelles on essaie de répondre, mais plus on essaie d'y répondre, encore une fois, plus on en génère de nouvelles.
Plus il y a de questions. Alors Sébastien Laverne, pour un biologiste de l'évolution comme vous, les fleurs, c'est vraiment un joli sujet. D'ailleurs, Darwin, en son temps, y avait vu une énigme.
Oui, alors effectivement, mais Darwin voyait une énigme en vrai dans l'origine entière de toutes les plantes à fleurs. Pour lui, c'était un mystère abominable.
C'était son terme.
C'est ce qu'il a écrit dans une correspondance avec Hooker, son grand ami et collègue. Donc effectivement, l'origine des plantes à fleurs, pour lui, c'était un grand mystère, puisque lui voyait l'évolution comme un processus lent, graduel, alors que les plantes à fleurs, dans le registre fossile, apparaissaient de manière brusque. C'est le cas de beaucoup de plantes alpines, en fait. Elles sont apparues de manière assez brusque à la faveur des surélections alpines.
Elles apparaissent quand, les plantes à fleurs, en fait, sur Terre?
Alors, les plantes à fleurs sur Terre apparaissent, on pense, d'après les derniers travaux de biologie moléculaire, entre moins 150 et moins 200 millions d'années. Les fossiles les plus anciens sont finalement beaucoup plus récents. Donc ça, c'est un peu d'ailleurs un combat permanent entre les gens qui font de la paléontologie, qui étudient les fossiles, et ceux qui font de la génomique. En génomique, on a toujours tendance à rendre les choses plus vieilles.
Ah oui.
Voilà. Mais donc, on est toujours à plus de 130 millions d'années, quelque chose comme ça.
Et on comprend mieux ce que Darwin n'avait pas compris. Pourquoi subitement, alors qu'effectivement, la vie était apparue depuis bien longtemps, tout d'un coup, les fleurs explosent à la surface du globe.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut dire surtout, je pense, c'est que la variation d'un taux d'évolution, parce que là, on parle de taux d'évolution, c'est pas incompatible avec la théorie de Darwin, avec la sélection naturelle. C'est juste que la réponse à la sélection naturelle, ou la sélection naturelle elle-même, peut être variable dans le temps. Donc, l'évolution peut varier dans le temps. Et c'est pas du tout une épine dans le pied à la théorie de la sélection naturelle. Darwin, c'était peut-être avait trop limité le domaine d'intérêt de sa propre théorie. Ouais. Et des paléontologues, plus tard, dans les années 40, ont commencé à préciser, donc Simpson, pour ne pas le nommer, qu'effectivement, l'évolution a un tempo, et ce tempo, il est variable.
Alors, vous allez tous les deux herboriser en haute montagne, le long des parois. Vous n'êtes quand même pas les seuls à vous être intéressés à cette flore des montagnes. Par exemple, en 1760, un certain Horace Bénédicte de Saussure avait été envoyé dans la vallée de Chamonix, au pied du Mont Blanc, par le naturaliste suisse Albrecht Kornhaller.
En sortant du défilé des montées, on tourne à gauche et l'on entre dans la vallée de Chamonix. Le fond en forme de berceau est couvert de prairies. Je crains malheureusement, cher monsieur de Haller, de ne guère pouvoir combler votre soif scientifique. La flore est ici bien peu riche. Beaucoup de lichens, des touffes de Silenea caulis, du gramen, de l'Aretia helvetica. Le spectacle, en revanche.
Un extrait de l'émission de Stéphanie Duncan sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, avec cette reconstitution, hein, une fiction bien sûr, de ce scientifique à la fois sportif, Horace Bénédicte de Saussure, qui découvre le lieu et qui visiblement est plus impressionné par les sommets que par la végétation sur place. Comment expliquer que lui n'a pas vu tout ce que vous voyez, Cédric Dantan?
Alors, même pour préciser, en fait, il a vu des choses. Il a vu quand même pas mal de choses, et sur le Mont Blanc, effectivement, il a... En voulant aller faire des mesures physiques, parce qu'à l'époque, un scientifique, c'était ce qu'on appelait un savant, et un savant, il embrassait tous les domaines. De Saussure, c'est l'inventeur de la géologie, du terme même de géologie et de la science dite de la géologie. Donc quand il a voulu accéder au sommet du Mont Blanc, il a avant tout voulu faire des mesures physiques. Mais le Mont Blanc, enfin, comme tout un chacun, c'est un dôme de glace. Et surtout, il a découvert en allant au sommet du Mont Blanc ce qu'on appelle l'hypoxie d'altitude, qui est en gros le mal de l'altitude. En gros, il était malade à crever. Ouais. Donc, toutes ces mesures et ces travaux qu'il a voulu conduire, il a dû les écourter et redescendre parce qu'il savait, il se sentait malade avec la pléthore de guides qui était avec lui, mais il savait pas les conséquences. Est-ce qu'ils allaient mourir ou pas là-bas? Donc, ils ont préféré redescendre pour se préserver, et c'est à la descente où il a fait des premières observations. Et puis l'année d'après, sa première, donc à lui, c'était en 1787, sa première ascension du Mont Blanc, qui était la troisième de l'histoire. En 1788, il retourne à un col qu'il nomme lui-même le col du géant, qui est un col bien connu à l'heure actuelle, puisqu'il y a un énorme refuge qui s'appelle le refuge Torino. Et là, il fait ce qu'on a entendu dans l'extrait, l'observation de ce qu'il appelle une plante parfaite, qui n'est ni plus ni moins qu'une plante à fleurs.
en la nommant comme il peut. Bon, on s'est rendu compte en relisant de Saussure qu'il s'est trompé d'espèce. Mais à sa décharge, on n'a pas trouvé plus qu'une espèce non plus dite parfaite, ouais, là-haut, quoi. Et cette espèce qu'on a trouvée, et là aussi on peut rendre hommage à ce savant-là, eh ben, elle a manifestement toujours pas de nom. Donc ça renvoie effectivement, comment dire, au contraire, c'est plutôt impressionnant quand on pense que ça s'est passé il y a à une époque où il n'y avait pas de refuge, ouais, il n'y avait pas les techniques modernes d'alpinisme, et que ce savant-là, il s'est donné toutes les peines du monde pour y arriver. Il est resté quand même 16 jours au col du Géant, qui a plus de 3000. Enfin, il s'est donné un mal de chien. Donc, il a fait des belles observations. Mais c'est vrai que le Mont Blanc, là où il a été sur le Mont Blanc, il y avait beaucoup moins de choses à observer que là, nous, où on a été dans le massif des Écrins, par exemple.
Alors, il a fait de belles observations. C'est un pionnier, hein, vous le dites, le troisième à monter au sommet du Mont Blanc. Hein, donc, effectivement, tout était à défricher. Et puis, au-delà de l'admiration que vous pouvez porter au pionnier, il y a aussi l'idée que tous ces textes, lui et puis laissés par d'autres aussi, pour vous, ce sont des mines d'informations, parce que vous pouvez comparer ces observations qui datent maintenant de 2-3 siècles à ce que l'on observe aujourd'hui. Et on se rend compte que c'est un milieu dynamique, la montagne, que ça évolue très vite parfois. Certaines plantes apparaissent, d'autres disparaissent.
Ah oui, c'est un sujet que les Suisses explorent encore beaucoup actuellement, parce que la Suisse est un pays très montagneux et il y a beaucoup de sommets facilement accessibles à pied, en fait, de sommets assez hauts. Et c'est quand même un peu eux qui ont lancé cette idée de comparer des données anciennes avec les données récentes. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu, on s'est pris au jeu pour la partie française, et que la difficulté à côté français, c'est qu'on a peu de données. Mais du coup, effectivement, on a des données d'observateurs assez prestigieux, puisqu'on a deux Saussures. Bon, il était genevois, il était suisse. Ouais. Donc, on retombe toujours sur nos pattes à ce niveau-là. Et puis, on a aussi, par exemple, Edward Whymper, qui a fait... qui est quand même la personne qui a révolutionné l'alpinisme à la moitié du 19e siècle, qui a fait quand même des observations botaniques et qui sont précieuses. Mais comment dire, maintenant, la grande difficulté, c'est d'avoir assez de répétitions de ces observations pour pouvoir les comparer et donner force à ces changements. Et c'est vrai que les premiers résultats qui peuvent être partagés par la communauté scientifique, c'est de voir que ces hauts sommets, de manière contre-intuitive, s'enrichissent en espèces, plutôt que de s'appauvrir. Mmh.
Sébastien Laverne, c'est là un peu toute l'originalité de vos travaux et puis des théories que vous êtes en train de mettre en place. C'est qu'on a longtemps vu ces plantes un peu comme des rescapés qui étaient partis dans une sorte de cul-de-sac évolutif, hein, qui avaient monté pour se réfugier puis qui se retrouvaient là-haut. En fait, c'est un peu une pouponnière, ces sommets d'étoiles. C'est là où l'évolution s'accélère et où les plantes, pour s'adapter, innovent.
Oui, c'est vrai. Très bon travail de documentation, je dois dire. En effet, il se trouve que on a souvent vu et longtemps vu les montagnes comme des espèces de zones reliques, puisqu'on vit sur une planète qui se réchauffe actuellement à un rythme très rapide, mais qui se réchauffe de manière continue depuis au moins 20 000 ans, hein, depuis la fin de l'ère glaciaire. Et on a tendance à voir ces montagnes comme des mondes perdus, au sens du roman de Conan Doyle. Ouais. Alors qu'à l'inverse, on se rend compte en étudiant l'évolution de ces plantes, en reconstruisant l'évolution à l'aide de la génomique, qu'on a affaire plutôt à des groupes d'espèces cousines les unes des autres, qui sont apparues relativement récemment dans l'évolution, et à la faveur effectivement de périodes de spéciation, d'apparition de nouvelles espèces qui ont été très intenses pour certaines périodes, et ça on s'y attend pas trop, a priori, surtout que ce sont des environnements très contraignants, et généralement la biodiversité a plutôt tendance à naître dans les environnements chauds de la zone tropicale, et non pas dans les environnements contraignants de la haute montagne.
On va découvrir avec vous ces adaptations et ces plantes que vous connaissez si bien et que vous allez étudier sur les parois. Le biologiste Sébastien Laverne et le botaniste Cédric Dantan nous emmènent sur les parois rocheuses des hautes montagnes à la découverte des fleurs qui y prospèrent. Pour vous joindre à la conversation et nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Voici de la musique douce, douce. Mmh. Un peu de musique douce, douce. Mmh. Voici de la musique douce pour entendre le pire. Car à trop être sourd, on ne pourra même plus luire. Juste de la drogue douce pour calmer l'artifice qui paraît des secousses dans un monde sans musique. Voici des calmants lourds pour abaisser les rires. Faut qu'ils retirent sourire dans ces fêtes sans tabou. Voici de la musique basse pour la faire moins festive, tout en gardant l'audace et restant sur le qui-vive. Voici de la musique douce, douce. un peu de musique douce. La musique douce en guise d'éclaireur pour pas se noyer dans nos bains de sueur. Juste de la drogue douce pour pas être surpris par de géantes tous de peur et de cris. Des calmants lourds pour jouer l'innocent, un œil en somme toujours prêt à temps. La musique basse pour entendre les splashs qui cognent en gouttes sur les spots intacts. Voilà que la lumière coule sur nos visages, alarme le temps qu'on avale ce sourd moment de rage. Voilà que les cœurs roulent sur les planches colorées de rouge vif, abrupt et de danse desséchée. Voici de la musique douce, douce. Oh, oh, oh. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on exige de danser à pas de géant. Avec des habits de circonstance, je l'avoue parfois très outrageant, mais ils font peur au point d'être agents. Je veux bien les mettre et remettre et crier combien je fais la fête, en montrant bien que sous mes pieds j'ai la plus belle des cultures dorées. Parfois psychée ou sophistiquée, je danse fort à me tuer à coups d'amour et de lettres. Qu'au petit jour à ses êtres, j'envoie mes sueurs et tous mes baisers pour sereinement aller me coucher. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe.
C'est la musique douce, douce. Oh, oh, oh. Un peu de musique douce, douce. Oh, 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 oh. Mmh.
Mmh. Eddy de Préto avec musique basse sur France Inter.
J'ai pris la tablette.
On va prendre la nouvelle Moraine et puis après on est sur le replat là, tu vois. Comme ça là.
Et regarde le soleil là.
Alors ce qu'on voit super bien dans le bassin, c'est la limite entre le granit et le gneiss. Tout ça, c'était dans un océan, quoi. On arrive à avoir une lecture du paysage assez exceptionnelle dans ce bassin. Mais bon, on est venu pour les petites fleurs.
Un oiseau qui passe.
Oui.
Regarde Choucard.
Ouais, content.
Sébastien Lavergne et Cédric Dantan, de nouveau en route pour étudier les petites fleurs de haute montagne. Alors vous êtes des scientifiques, mais vous êtes aussi, on l'entend et on l'a compris, des amoureux de la montagne. Vous êtes de véritables alpinistes, tout comme Lionel Daudet, hein, qui est un célèbre alpiniste qu'on avait reçu dans cette émission et qui signe la préface de votre livre, Cédric Dantan, Flora Verticalis, aux éditions Le Naturographe. Elle est savoureuse, sa préface, assez amusante, parce qu'en fait, il reconnaît assez clairement que les alpinistes de tout poil ont globalement pas grand chose à faire des plantes qu'ils traversent, voire qu'ils croisent sur leur parcours. Alors il appelle réconcilier l'alpiniste avec son environnement, faire tomber ses œillères de sportif pur et dur et découvrir l'enchantement de l'écologie verticale, s'enrichir de toute cette flore qui s'accroche avec opiniâtreté aux parois les plus lisses, les plus raides et qui lutte pour sa survie face à des climats très rudes. Voilà un beau programme. Vous l'avez conquis, Lionel Daudet. Ça y est, il est converti à ces petites fleurs qu'on trouve en haute montagne.
Il est non seulement converti, mais comme beaucoup, maintenant il voit, il a les yeux ouverts. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que la plupart des gens, quand j'interviens dans les refuges, par exemple, me disent que, mais il n'y a rien. Même les gardiens de refuge découvrent qu'il y a des plantes sur les parois qu'ils conseillent à des pratiquants de l'alpinisme. Donc là, c'est une belle collaboration qui s'est mise en place avec tous les deux. Avec Sébastien et moi depuis quelques années maintenant. Ouais. Et à chaque fois que Dodd part en expédition, il propose même de ramener des échantillons. C'est devenu, un fervent converti.
Dodd, c'est le surnom de ce Lionel Daudet alpiniste qu'on aime beaucoup. Ils sont nombreux, donc, les alpinistes, à ne pas les avoir vus du tout. On peut, à leur décharge, dire qu'elles sont quand même toutes petites, ces plantes à fleurs. Hein. En tout cas, la fleur en elle-même, ça ressemble parfois à des coussins de mousse, plus que vraiment, on n'est pas avec des lianes géantes.
Non, mais c'est comme toujours, si vous voulez voir, vous pouvez voir. Et en haute montagne, la plupart des gens, ils sont un peu en situation de survie, d'une certaine façon. Pour eux, l'important, c'est bien sûr d'arriver au sommet, mais c'est surtout de rentrer vivant.
Ouais.
Donc, en fait, le fait dans des conditions un petit peu, dépasser ses limites pour beaucoup de personnes qui tentent le sommet, c'est le seul branchement cérébral
qu'ils effectuent.
Les fameuses œillères dont il parle.
Ouais. Or, mais je crois que ce qu'on arrive avec Sébastien à faire depuis quelque peu, c'est montrer qu'il y a une vie, il y a une vie qui est foisonnante et qui est d'autant plus respectable qu'elle affronte des conditions que nous-mêmes sommes totalement incapables d'affronter. Sur un long terme.
C'est vrai que vous, hein, quand vous y êtes sur ces parois, accrochés avec vos cordes et vos mousquetons, rien ne vous échappe de ces petites plantes et vous leur offrez une attention toute particulière.
Ah, il y a un beau coussin d'Erythriche là. Tu veux le prendre en passant ?
Je le prendrai, ouais. Alors ça, c'est vraiment un énorme coussin de silène. Silène à colle, toujours. Alors ce qui est frappant sur ce coussin, c'est qu'il peut très bien dépasser 1000 ans sans aucun problème. Donc voilà, une longévité vraiment extraordinaire, vraiment exceptionnelle.
C'est bon, je suis reparti !
On a l'androsas de Vandelli, qu'on était venu chercher. Donc pour le coup, bingo, on l'a retrouvé. À côté, on a la silène à colle. Et puis on en a une qui est un peu plus à l'ombre, là, le saxifrage musqué, qui est encore une des espèces sur lesquelles on travaille, et qui, elle, est particulièrement intéressante parce qu'on la connaissait très mal. Et il s'avère que dans nos recherches, c'est celle qu'on a rencontrée le plus souvent, à la fois sur le gradient altitudinal des parois et sur le nombre de sommets concernés.
Ok, tu peux avaler.
Voilà un petit aperçu hein, de la biodiversité que vous croisez sur ces parois. Expliquez-nous un peu, alors on a entendu les noms, hein, très jolis, mais pas forcément très imagés. On voit pas forcément la plante dont il s'agit, donc il faut que vous nous les décriviez un peu. Et puis il y a cette fameuse organisation en coussin qu'on retrouve beaucoup. C'est quoi l'organisation en coussin ?
Alors les plantes en coussin sont des plantes qu'on trouve à peu près dans toutes les montagnes du monde. Hein. C'est ce qu'on appelle une adaptation convergente qui est apparue des centaines de fois en fait dans l'évolution des plantes à fleurs. Et c'est une forme extrêmement dense, c'est-à-dire c'est une plante très dense, c'est une seule plante hein, généralement, en tout cas c'est celle dont on parle dans le documentaire, et qui pousse très très lentement aussi. Mais ça c'est par la contrainte de la haute montagne et du milieu contraignant. Donc ce sont vraiment des espèces qu'on appelle des espèces fondatrices des écosystèmes. Beaucoup d'autres espèces en dépendent aussi, puisqu'elles viennent y pousser dedans, des insectes viennent s'y réfugier.
C'est ça.
Ce sont en fait des abris thermiques, en quelque sorte.
Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que ce n'est pas une plante, ce sont presque des petits écosystèmes à chaque fois, des petits îlots sur la paroi, et une interaction de toutes ces plantes. Là encore, l'image très compétition qu'on peut avoir du monde vivant, on n'y est pas du tout, c'est une coopération. Si elles se maintiennent là, c'est parce que tout le monde s'entraide, y compris plantes et animaux.
Oui, alors, je ne sais pas si on peut parler réellement de coopération, dans le sens que ce n'est pas forcément une interaction à bénéfice réciproque. On pense plutôt que c'est la plante en coussin qui va favoriser, faciliter, on appelle ça la facilitation, les autres espèces de plantes et des espèces d'insectes. Par ailleurs, il n'est pas facile de mesurer, d'ailleurs, réellement, empiriquement, si le fait que d'autres plantes sont présentes dans ce coussin va favoriser ce coussin. Donc c'est plutôt une interaction de facilitation qui est peut-être à sens unique, plutôt en faveur des autres espèces.
Ouais.
Mais ça n'a pas l'air de gêner pour autant certaines de ces espèces en coussin, qui sont, pour certaines, on l'a dit dans le documentaire d'ailleurs, très longévives. C'est-à-dire qu'une plante de ce type de plante en coussin peut vivre facilement plusieurs centaines d'années.
Ouais. Et vous installez, alors là aussi, des petits capteurs, quand vous allez en montagne, pour avoir des petits capteurs pour enregistrer l'environnement, les circonstances dans lesquelles évoluent et grandissent ces plantes. Et puis vous les laissez pendant longtemps, hein, pendant un an parfois. Ensuite, vous retournez sur place, c'est tout un jeu de piste, parce qu'il faut retrouver ces petits capteurs que vous avez laissés à côté des plantes. Et ça, Cédric Danton, ça vous permet de savoir quoi des conditions climatiques auxquelles sont exposées ces toutes petites fleurs.
Eh bien, ça nous permet un petit peu de comprendre sur tout le long de l'année, en fait. Parce que nous, on passe évidemment à la belle saison, quand on les voit en fleurs, quand on peut prélever leur tissu vivant pour en extraire ensuite l'ADN. Mais qu'est-ce qu'elles vivent tout le reste de l'année, finalement? Et au fil des saisons, qui, on le sait maintenant, vont évoluer, sont déjà en train d'évoluer. Donc, l'idée de mettre ces capteurs, c'est une idée vraiment pour du long terme. Ça existe déjà, c'est assez répandu maintenant, ces capteurs, mais très peu, voire pas du tout, sur les hauts sommets. Et donc l'idée, c'était un petit peu de mesurer, quand il y avait de la vie sur ces hauts sommets, qu'est-ce qu'affrontait cette vie là-haut. Et effectivement, même si, enfin, c'est pas, on essaie de changer tous les ans, parce que les batteries là-haut sont mises à rude épreuve quand même. Bon, le matériel évoluant, ça, on peut espérer les laisser de plus en plus longtemps, mais l'idée, c'est de toute façon de mesurer sur, moi j'ose espérer plusieurs décennies, comment vont évoluer les conditions de ces hauts sommets. Et on se rend compte déjà, on a déjà des données qui sont complètement spectaculaires, avec des amplitudes thermiques, c'est-à-dire il fait zéro à minuit, il fait plus 50 degrés à 15 heures de l'après-midi, et ce sur un glacier noir où pousse un glacier noir, c'est un glacier recouvert de rochers où poussent des plantes et les plantes se portent à merveille. Ouais.
Donc, alors qu'est-ce qui explique, de quelles adaptations elles se sont dotées ces plantes? Alors c'est l'évolution qui a abouti à ça. Qu'est-ce qu'elles ont pour faire face à de telles conditions, Sébastien Lavergne?
Alors il y a une première adaptation dont on a parlé, c'est cette morphologie très dense, ouais, très ramassée qui
permet de garder de l'eau, c'est
alors,
ça
surtout,
de se tenir chaud.
A priori surtout pour tamponner les variations thermiques, certainement aussi pour tamponner les variations hydriques, mais on trouve aussi de ces plantes en coussin dans des montagnes plus arrosées. Donc le lien avec l'aridité est peut-être un peu moins clair, comme dans les Andes tropicales typiquement, qui sont des montagnes très hautes mais aussi très arrosées, on retrouve aussi des plantes en coussin. Donc a priori le lien est beaucoup plus fort avec les environnements froids. Donc ça sert de tampon thermique. Il fait chaud dans le coussin quand il fait froid dehors, il fait plus frais quand il fait chaud dehors. Il y a d'autres adaptations qui sont connues, la pilosité des feuilles, des pigments particuliers qui permettent de lutter contre les radiations dues aux radiations UV très importantes en altitude. Il y a un certain nombre d'adaptations comme ça. La liste est assez longue, en fait. Ouais.
Quel est le record, la plante que vous avez trouvée en plus haute altitude de toutes ces plantes que vous avez croisées, Cédric Danton?
Alors, la plus haute, c'est sur le plus haut sommet des écrins, qui est à 4102 mètres. Et la plante était en gros une trentaine de mètres en face sud, hein, un peu plus bas, à 4070 mètres d'altitude. Donc, c'est la seule donnée, en fait, à l'heure actuelle, pour les Alpes françaises, d'une plante au-delà de 4000.
Ouais. C'était quoi comme plante?
Elle s'appelle la saxifrage à feuilles opposées. Alors c'est un nom un peu long et barbare,
mais c'est joli,
la plante est magnifique.
Alors décrivez-la nous.
Alors elle fait des petites feuilles, bon, on le devinera, vertes, très très compactes et ramassées. Et par contre elle fait des fleurs purpurines, très visibles, et qui fleurissent, c'est ça qui est intéressant pour les alpinistes, très vite en fait, dès qu'elle est déneigée, dès le printemps. Alors le printemps en haute montagne, c'est plutôt mai-juin. Et dès que, en gros, elle est... délaissée de son manteau neigeux, elle fleurit, elle est absolument magnifique. Surtout que le contraste de cette couleur purpurine avec le blanc et le grisâtre minéral est assez saisissant.
Ouais. Je résiste pas à l'envie de nous en faire décrire plusieurs, parce que vous faites ça très bien. L'érythriche, on entendait ces noms barbares tout à l'heure quand on vous entendait sur la paroi et vous émerveillez devant ces plantes. C'est quoi l'érythriche?
En plus, l'érythriche s'appelle l'érythriche nain. Bon, c'est pas très joli. On l'appelle aussi le roi des Alpes, ce qui est tout de suite plus valorisant quand même.
C'est vrai.
Et ça, tout le monde le connaît sans pouvoir le nommer, parce qu'en gros, les gens se disent, tiens, on dirait un myosotis. Et c'est vrai que c'est le myosotis, bon, plus de gens connaissent cette espèce, c'est une sorte de myosotis ramassé très très poilu. Et c'est un groupe très proche des myosotis, hein, donc c'est pas tout à fait faux de le dire. Et ces pétales bleus, pareil, se tranchent très très fortement avec l'environnement plutôt homogène de gris, de blanc. Alors, quand on est dans le massif du Mont Blanc, on a le orangé de ce fameux granit qui est une belle couleur, mais ce bleu-là, il est tout à fait particulier, et un peu comme le bleu gentiane, quelque part, mais beaucoup plus haut et plus raide.
Et les renoncules des glaciers aussi.
Alors, la fameuse renoncule des glaciers, qui talonne un petit peu les glaciers, aussi haut soit-il, elle fait des grosses fleurs blanches, avec un cœur jaune, le cœur jaune qui est en fait constitué des étamines, donc l'organe sexuel mâle. Et cette plante-là, nous, on la voit blanche, donc elle est très visible. Hein. C'est une grosse fleur pour l'altitude. Elle est souvent très florifère, c'est-à-dire il y a plusieurs têtes fleuries, hein, donc on a du mal à la rater. Et les insectes, eux, la voient d'autant mieux que ce que nous voyons blanc. Eux, la voient complètement chatoyante. Elle reflète extrêmement bien les UV et est très très attractive, du coup, pour les pollinisateurs, qui sont de toute façon très rares là-haut, donc autant être attractive.
C'est ça, c'est-à-dire que ces fleurs là-haut, comme celles en bas, ont besoin des pollinisateurs, donc c'est-à-dire qu'il y en a à ces altitudes et dans ces conditions climatiques.
Exactement, ça reste des plantes à fleurs, c'est-à-dire en gros les plantes à fleurs ont une des caractéristiques principales, c'est d'avoir coévolué avec le règne animal et notamment les insectes. Et là-haut, comme en bas, elles ont besoin de pollinisateurs pour la plupart d'entre elles. Et comme là-haut, ben les conditions sont pas faciles pour les pollinisateurs, elles ont la particularité de fleurir plus longtemps. Une même espèce fleurira d'autant plus longtemps qu'elle est plus haute en altitude. Et ça, pareil, c'est pas tout à fait intuitif. Ouais. Vu que la bonne saison est courte, eh ben c'est pas grave.
Ça veut dire quoi, plus longtemps? Elles peuvent rester les fleurs ouvertes pendant combien de temps?
Alors, les fleurs vont se succéder, en fait. Elles vont ouvrir une fleur, la fleur va rester quelque part le temps qu'il faut avant d'avoir un pollinisateur. Et puis, s'il fait trop sec, s'il y a du vent, s'il y a du mauvais temps qui abîme la fleur, Pour la renoncule notamment, elle a jusqu'à 4 ans d'avance de bourgeons préparés, donc elle s'active pour pouvoir remplacer au besoin les fleurs à polliniser.
C'est assez incroyable, hein, ces adaptations. Et puis alors, vous faites aussi, vous faites des prélèvements, hein, quand vous êtes en mission sur le terrain, sur ces parois, et vous faites aussi ensuite des analyses génétiques, Sébastien Lavergne. Et là aussi, ça permet de compléter un peu la compréhension de l'évolution et des mécanismes à l'œuvre. Qu'est-ce que vous faites exactement du point de vue génétique?
Donc, à vrai dire, il faut plutôt dire que la reconstruction de l'histoire de ces espèces, elle se base plutôt sur la génomique. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus qu'un complément. Oui. Hein, c'est vraiment à la base. Et la génomique nous permet de mesurer en quelque sorte le degré d'apparentement entre espèces. Et donc, ça nous permet de construire des choses qu'on appelle des phylogénies, c'est-à-dire des arbres d'apparentement entre espèces. Et on remonte ainsi dans le temps grâce à la génomique. Oui. En se posant la question, qui est plus proche de qui? Et on essaye d'obtenir une image graphique, ouais, et qui est aussi un objet mathématique, et c'est la base aussi, ouais, de nos analyses de données, qui s'appelle un arbre phylogénétique, ouais, et qui reconstruit l'histoire d'un groupe.
Ouais, c'est ça. Alors là, vous l'avez dit avec des mots très précis qui font que c'est tout à fait juste. Si je le dis avec des mots un peu moins précis et du coup un peu moins juste, c'est une sorte d'arbre généalogique du vivant, mm-hmm, que vous essayez de retracer, de voir qui sont les ancêtres et qui ont donné ensuite des espèces filles. Et puis on retrace ce grand arbre.
C'est une forme de généalogie. La différence, que dans une généalogie, on a des parents qui donnent des enfants. Donc en général, on va dire deux objets qui vont donner un enfant au minimum, ouais, ou plusieurs enfants. Dans une phylogénie, c'est l'inverse. On a une lignée parentale qui va diverger entre différentes espèces. Donc c'est une généalogie, mais à l'envers. Ouais. Et donc une lignée ancestrale va diverger en deux espèces. On appelle ça la spéciation. Et on reconstruit ces événements de spéciation grâce à la génomique en construisant ces arbres.
Ouais. Et puis aussi, ça vous permet de retracer l'histoire des migrations de ces plantes, de leurs adaptations. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Nous poursuivons nos découvertes sur les plantes à fleurs de haute montagne. Et puis nous irons faire un tour en forêt avec Hugo Struna dans un instant.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre. Il me paraît bien loin l'été, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai perdu la raison. Et le temps peut bien s'arrêter, peut bien me confisquer toute notion des saisons.
C'était Fleurs de saison de Émilie Simon.
Bon bah, on a bien travaillé. On a fait tous les échantillons qu'on voulait, on vient de terminer là. Et puis on arrive avec des nuages, bon, on aura le temps de redescendre, mais il était temps. Et quand même une vue sur le grand pic de la neige qui a de la gueule. Ça fait toujours plaisir de voir les sommets comme ça, où on avait déjà vu les plantes qui nous intéressent.
chouette, hein. Ça, c'en est une bonne.
Bien joué.
C'est quand même une des plus belles vues de l'Oisans.
Extrait d'un documentaire diffusé dans Des Racines et des Ailes en janvier 2015, au sommet de la Grande Ruine qui culmine à presque 4000 mètres d'altitude dans le parc national des Écrins. Avec nous Sébastien Laverne, biologiste au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, et Cédric Dantan, botaniste au service scientifique du parc national des Écrins. Grâce à vous, hein, c'est l'histoire de la planète et celle des évolutions des plantes à fleurs que nous visitons cet après-midi. Vous cherchez à comprendre comment et pourquoi l'évolution a conduit ces plantes à conquérir les sommets des montagnes. Et quand vous êtes là, c'était vous hein, qu'on entendait dans cet extrait au sommet de ce sommet, la Grande Ruine. Quand vous êtes sur ces sommets, est-ce qu'il vous arrive d'essayer d'imaginer à quoi pouvaient ressembler les Alpes à l'époque des grandes glaciations, alors que ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, Cédric Dantan?
Alors oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une des bases de ce travail, hein, c'est d'arriver à détecter ces fameuses îles du ciel, donc ces points qui étaient émergés de ces grandes masses glaciaires qui ont couvert les Alpes et une partie de l'Europe du Nord. Et ça, il y a un excellent ouvrage qui est sorti récemment de Sylvain Coutran qui reconstitue ces glaciers du passé. Parce qu'il faut imaginer, par exemple, sur ce qui est la ville de Chamonix à l'heure actuelle, il y avait quasiment 3 km d'épaisseur de glace.
Au-dessus?
Ah, au-dessus. Oui. Ce qui est maintenant Grenoble, il y avait 1 km d'épaisseur. Enfin, c'était des masses colossales. Et au milieu de ces masses colossales émergeaient effectivement des îlots montagneux. Et cette théorie des Nunataks, hein, Nunataks c'est ce terme inuit qui désigne la Terre, cette théorie des Nunataks est de se dire, mais est-ce que ces îlots rocheux sont-ils restés en fait vierges de toute vie? Et a priori, c'est pas du tout le cas justement. Mmh. Donc c'est un petit
Donc,
peu...
Le paysage qu'il faut s'imaginer, c'est une sorte de grande mer de glace assez régulière avec ces petits sommets rocheux qui en dépassent. Comme, c'est pour ça qu'on a ce terme inuit, parce que ce sont des paysages que l'on peut retrouver maintenant dans le Grand Nord.
Bah, même... Exactement, même surtout en fait en Antarctique maintenant. Alors, il n'y a pas de limite en Antarctique, mais peu importe. C'est effectivement des paysages qui existent encore à la surface de la planète et qui sont très extrêmes. Mais à une époque donc qui est pas si ancienne, hein, les grandes glaciations se sont terminées il y a une vingtaine de milliers d'années. Il y avait cet océan qui était solide, voilà, cet océan de glace et ses sommets qui abritaient une vie qu'on a souvent sous-estimée, puisque dans la littérature scolaire, jusqu'à récemment, on considérait que tout le vivant avait migré, et en bonne partie péri d'ailleurs, dans les parties les plus méridionales d'Europe.
Et c'était donc au Portugal, en Espagne.
Exactement, en Grèce, en Italie, bien sûr. Et puis c'était confronté à la barrière de la Méditerranée. Ouais. Donc on estime qu'il y a quasiment 80% des espèces européennes qui ont périclité à ce moment-là. D'autres ont trouvé refuge, comme les plantes, grâce aux graines de l'autre côté de la Méditerranée. Mais en fait, ce qu'on explore justement, c'est ce vivant qui est resté et qui s'est même diversifié sur ces sommets.
Donc Sébastien Laverne, il faut maintenant imaginer ces Nunataks, ces espèces de sommets qui dépassaient de cet océan de glace, comme des îlots de biodiversité, des îlots refuges où des plantes se sont réfugiées et se sont adaptées.
Oui, des îlots refuges, des refuges glaciaires justement. Et donc on pense que certaines espèces, donc grâce à la génomique, on pense que certaines espèces sont là depuis très longtemps et ont passé toute l'ère glaciaire, donc environ 2 millions d'années de période glaciaire. Mais on se doute aussi, on a ce même genre de travaux qui ont été réalisés sur des insectes, on se doute aussi qu'il y a eu des insectes dans ces milieux-là, puisqu'on l'a dit d'ailleurs, il y en a certaines qui dépendent des insectes pour se reproduire. Il fallait bien qu'ils soient là aussi. Donc on a aussi des insectes, on a vraisemblablement aussi des données génomiques sur des araignées de montagne aussi qui montrent la même chose.
Quand la glace a fondu, que ces kilomètres d'épaisseur de glace ont fondu, ont disparu et ont donné lieu au paysage que l'on connaît aujourd'hui, on peut imaginer que ces plantes sont redescendues et sont venues recoloniser les vallées, les terres qui se libéraient.
Alors, c'est possible qu'elles soient redescendues, mais c'est certainement peu probable qu'elles soient devenues extrêmement abondantes à basse altitude. On pense que c'est quand même des populations sur différents sommets qui sont restées quand même assez peu connectées. Mais en tout cas, c'est un processus très important dans leur évolution, ces phénomènes de contraction et d'expansion des populations et de remise en contact. On pense que ça a joué un rôle de moteur, en fait on appelle ça une pompe à espèces, dans le phénomène de spéciation justement, ces variations temporelles.
Je vous présente Hugo Struna qui nous a rejoint. Bonjour Hugo.
Bonjour Daniel.
Journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris dont nous sommes partenaires. Comme toutes les semaines, vous nous plongez dans les enregistrements de nature qu'étudient les scientifiques du muséum. Et aujourd'hui, petite promenade en forêt froide et tempérée.
On aurait pu faire une séance de méditation tant la musique de cette forêt de conifères nous apaise. Nous voici aux confins de la Russie, à l'ouest de l'Oural, dans la réserve naturelle de la Petchora et de Lilitch. Vous entendez l'écho, le silence, une véritable cathédrale à ciel ouvert.
Et on entend un joli cœur d'oiseau. Hein.
Oui, il est 2h du matin et on assiste pourtant à un cœur d'oiseau diurne, étonnant. C'est tout simplement parce que près du cercle polaire, au mois de juin, les nuits sont blanches. Seul un long crépuscule de 22h à 2h du matin sépare les journées. 4h de chant d'oiseaux en continu, on aimerait y être.
Oui, ces oiseaux ont l'air extrêmement tranquilles.
Oui, toutes les courtes rafales de balles que vous allez peut-être entendre
oui, on
là,
les entend, oui.
sont très très loin d'ailleurs, ne sont pas des règlements de compte, mais un oiseau, un pic qui percute un arbre. Ce bel écho signifie que les sons se propagent bien, qu'il n'y a pas l'once d'une pollution sonore. C'est Simon Targola, étudiant passionné par les sons de la nature, qui vient de rapporter cet enregistrement au muséum. Ce qui l'a marqué, m'a-t-il dit, c'est ce silence de la forêt, comprenez l'absence de bruit d'origine humaine. Et ce n'est pas le cas partout, écoutez.
Oui, donc là c'est un moteur, c'est un avion qu'on entend, Hugo ?
Effectivement, nous avons quitté la Russie pour une forêt française, cette fois dans le parc naturel du Haut-Jura, près de la frontière suisse. Comme vous l'entendez, nous sommes sous une véritable autoroute aérienne. Tous les jours, des dizaines d'avions partent de Genève, direction les pays méditerranéens, et survolent cette forêt qu'on pensait jusque-là relativement épargnée par les activités humaines. L'enregistrement, cette fois, est signé Jérôme Sueur, éco-acousticien au muséum, qui rentre tout juste de l'expédition dans la forêt jurassienne.
Et les animaux qui vivent dans cette forêt, on peut imaginer qu'ils soient dérangés, gênés par le bruit de moteur de cet avion ?
C'est une des choses que les scientifiques vont étudier. On connaît pas mal les effets des bruits urbains sur les animaux. On sait que cela provoque stress, fuite. Certaines espèces s'adaptent, comme la mésange charbonnière, qui chante plus aiguë en ville. Mais sur le bruit des avions en vol, qui plus est dans des zones reculées, le doute plane toujours, si je puis dire.
Mais il y a des hypothèses quand même ?
Les espèces qui émettent des sons basse fréquence, du même ordre que les moteurs d'avion, seront surveillées de près, comme les pigeons, les corbeaux, etc. Ils pourraient être en effet gênés dans leur communication. Cette forêt, malheureusement, n'est pas une exception. D'après le chercheur, il est très rare aujourd'hui de ne pas entendre le ronronnement du ciel, où que l'on se trouve d'ailleurs.
Et les acousticiens étudient aussi d'autres paramètres dans cette forêt du Jura.
Oui, les scientifiques ont fixé sur les troncs d'épicéa 4 capteurs de son pour enregistrer en continu les sons de la forêt. Et ce, pendant 15 ans. C'est la première fois que l'on mène une étude acoustique sur un temps aussi long. Les analyses vont permettre d'étudier la biodiversité et surtout son évolution dans le temps.
On va évaluer par exemple les effets du changement climatique.
C'est ce qui intéresse tout particulièrement Jérôme Sueur. On sait qu'entre les années 1960 et 2014, les températures moyennes ont grimpé de 3 degrés dans cette forêt. Quel impact sur la faune ? Difficile de le dire. On sait simplement que les oiseaux spécialistes des montagnes disparaissent au profit des oiseaux de vallée. C'est à peu près tout ce que l'on sait. Et pour la petite histoire, ce sont les mêmes enregistreurs audio qui ont voyagé en Guyane, où nous étions la dernière fois, en Russie et dans le Jura.
Et entre deux passages d'avion, on perçoit quand même la richesse de cette forêt.
Oui, elle est très peuplée, vous l'entendez, 45 espèces d'oiseaux, dont le grand tétras, le pic tridactyle, la gélinotte des bois, mais aussi des mammifères comme le magnifique lynx. Malheureusement, le félin n'a pas encore été enregistré, mais en cherchant un peu dans la sonothèque du muséum... Il faut savoir que c'est un lynx.
Oui, c'est ça. On n'est pas habitué forcément à entendre le cri du lynx. Donc à suivre pour les résultats, rendez-vous dans 15 ans, c'est ça ?
La biodiversité de cette forêt va-t-elle se diversifier, s'appauvrir ou se transformer avec le réchauffement comme les oiseaux le font déjà ? On en reparle dans 15 ans après analyse des sons, voire bien avant. D'ici là, espérons que les avions plus nombreux dans les années à venir n'embêtent pas trop le peuple de la forêt. Ils se font de plus en plus rares, malheureusement, comme en Russie, les derniers refuges de notre silence.
Merci Hugo Struna et à la semaine prochaine, Cédric Dantan et Sébastien Lavergne. D'abord, première question, quand vous êtes sur vos parois, quand vous escaladez, qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que c'est riche en sons, à part le son du vent ? Est-ce que vous entendez les avions ? Quelle ambiance sonore ?
On entend beaucoup la respiration de l'autre qui s'épuise. Après, c'est quand même des endroits qui sont particulièrement appréciables pour leur silence, justement. Ouais. Un silence assourdissant, comme diraient certains. Mais c'est très très apaisant à ce niveau-là. Ouais.
Vous aussi, Sébastien, vous auriez retenu le silence, c'est aussi ça que vous allez chercher.
Oui, alors
là-haut.
Cédric est un peu biaisé, si je puis dire, puisqu'il travaille dans un parc national, donc il a la chance de ne pas être survolé par les avions, hein, de fait.
C'est vrai.
Alors quand on fait de l'alpinisme dans le massif de Chamonix, qui est un endroit fabuleux, malheureusement on entend quand même beaucoup plus d'avions, par exemple.
Ouais.
C'est bien dommage d'ailleurs.
Et alors, il y a aussi cette idée, hein, que le changement de climat a un impact sur les espèces. Est-ce que le changement climatique est déjà à l'œuvre pour les petites plantes que vous observez? Est-ce que déjà, vous observez des migrations de plantes à fleurs sur les parois des montagnes liées au changement climatique, Sébastien?
Oui, bah d'ailleurs, c'est quelque chose des travaux à quoi Cédric faisait référence tout à l'heure. Hein. Et effectivement, on a des colonisations d'espèces vers la haute montagne. On a plus d'espèces qu'avant sur certains sommets, parce que des espèces de basse altitude recolonisent et que pourtant, pour l'instant en tout cas, celles qui semblent être mieux adaptées ou présentes depuis plus longtemps dans ces hauts sommets n'ont pas encore disparu. Donc on parle de dettes d'extinction en général. On pense que ces espèces-là vont finir par s'éteindre, mais on ne sait pas bien quand ni comment d'ailleurs.
Donc il y a encore cet effet un peu refuge des plantes du bas qui de nouveau migrent vers le haut, mais cette fois-ci parce que ça se réchauffe, donc
voilà,
parce que ça se refroidit.
Voilà, effectivement, elles migrent vers le haut à la faveur du réchauffement climatique. Maintenant, au bout d'un moment, dans certaines chaînes de montagnes, il n'y a pas plus haut qu'en haut.
Oui, c'est ça.
Et donc elles vont être un peu poussées à bout, si je puis dire. Ouais.
Allez, on repart en haute montagne pour étudier les fleurs avec nos invités qui vont répondre aux questions que vous leur avez adressées sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac dans un instant.
I'm sorry for your loss of soul. American saddlebred. Motor Goosey, Comet Tail, a faithful dog, a yard sale. I'm sorry for your loss of will to keep the fire burning still.
Sorry for your loss, c'était John Parrish et PJ Harvey sur France Inter.
Bon, encore 200 mètres de dénivelé, on le trouve.
Putain, ça va être long.
Nous, ça nous intéresse particulièrement parce que nous, on étudie les mécanismes par lesquels de nouvelles espèces émergent, les mécanismes de spéciation. Et donc là, si on a une nouvelle espèce en formation, ben, ça nous permet d'étudier ça typiquement. Grandeur nature et puis finalement au fur et à mesure du processus, donc c'est particulièrement intéressant.
Donc là on a trouvé l'androsace qu'on cherchait, donc c'est celle-ci là. Donc là, on a les boutons floraux ici, là, un peu roses. Et l'autre caractère, c'est les poils, qu'on regardera de plus près à l'abino ce soir. Avec un mélange de poils simples et de poils qui sont bifurqués deux ou plus, ou trois fois.
Un dernier extrait du film d'Olivier Alexandre intitulé « Sur les îles du ciel » qui sera projeté jeudi 9 août à 21h à la maison du parc du Bourdoisan. Si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup. Ce film est absolument superbe avec des images incroyables. Et puis vous verrez nos deux invités, Cédric Dantan et Sébastien Lavergne, à l'œuvre, dans leurs œuvres. C'est un bon souvenir pour vous, le tournage de ce film ?
Oh, la question. En partie, ouais. C'est quand même pas toujours évident d'être toujours filmé quand on travaille.
Ouais.
Du coup, forcément, il y a des adaptations à faire pour pouvoir prendre des images, pouvoir enregistrer correctement.
Ouais.
Mais c'était avec des personnes absolument super. Donc oui, globalement, humainement, c'est un très bon souvenir. Après, techniquement, c'était pas toujours les plus, ouais, les plus agréables.
Parce qu'il a fallu, effectivement, hein, effectuer pour de vrai ces escalades sur les parois avec, on imagine, cette fois-ci, toute la contrainte d'un tournage.
Ah, on a réellement travaillé. Je veux dire, dans ce documentaire, c'est des séances de travail qui sont faites et qui ont été adaptées, du coup, rendues parfois plus longues pour se prêter au jeu du documentaire, mais c'est la réalité de ce que l'on vit.
Et il y a cette séquence dans ce documentaire où vous partez à la découverte d'une espèce que l'on pense encore pas nommée, c'est-à-dire que ce serait une nouvelle espèce qui s'appellerait la renoncule du Mont-Blanc, c'est ça ?
Non, ça serait une androsace.
Une androsace,
mais d'ailleurs c'est un joli fil rouge, puisque c'est certainement cette espèce que De Saussure avait trouvée dans le Mont-Blanc et qu'il avait nommée Androsace helvétique.
Ouais. C'est un plaisir de découvrir une nouvelle espèce quand on est botaniste ou biologiste.
Ah oui, moi je dois dire que, alors d'abord on n'est pas complètement sûr encore que ce soit une nouvelle espèce, on sait que c'est, on va appeler ça un nouveau taxon, voilà, mais on y travaille, mais oui, moi personnellement c'est ma première fois.
Je voudrais
juste rajouter une chose, c'est qu'on entend dans l'extrait mon collègue Sébastien Ibanez, qui est aussi chercheur au laboratoire d'écologie alpine, qui participe aussi à ce programme.
Très bien, allez, des questions d'auditeurs. Camille, quels sont les pollinisateurs dans les hautes montagnes? Sébastien Lavergne.
Alors, une grande majorité des pollinisateurs en haute montagne sont en fait des mouches et apparentées. On appelle ça des diptères. Et plus récemment, on s'est rendu compte qu'il est possible que ce soit aussi des acariens. Ce qui est assez surprenant, des gros acariens. On a aussi, mais c'est beaucoup plus rare, des papillons, bien sûr.
Oui. Donc, on trouve des petits acariens à 4000 mètres d'altitude. Alors, on trouve des choses.
Mais plutôt
ça.
Des gros acariens, des en gros acariens. Parce que là, ils font plutôt 2 mm de long. Donc, c'est pas ceux qu'on ne voit pas dans nos tapis et dans nos coussins.
Ouais.
Donc, ils sont rouges. Et souvent, les gens pensent que c'est des araignées. Donc, non, en fait, ce sont des acariens.
Mariek vous demande, le vent a-t-il un effet sur les fleurs? Et j'ajouterai à cette question, sur les plantes en général, Cédric Dantan.
Alors, les plantes à fleurs, par définition, font des graines, et donc le vent est un excellent vecteur de dispersion de ces graines. Donc ça, c'est extrêmement important en haute montagne. D'où le fait qu'on avait retrouvé en pleine paroi et dans des situations assez improbables ce type d'espèce. Mais ça a aussi un effet extrêmement abrasif, érosif. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas d'arbres en altitude, c'est justement qu'elles ont ces plantes assez imposantes, ont une prise au vent beaucoup trop forte et donc ne résistent pas en fait à ces contraintes mécaniques.
Donc ça explique un peu ces plantes qui sont toujours de taille réduite avec des petites fleurs, c'est aussi pour ça qu'on les a pas vues pendant longtemps, on les voit pas de loin ces plantes.
Tout à fait, mais c'est assez facile de se mettre dans leur situation en fait. Mettez-vous dans la situation d'une tempête de neige qui vous arrive en pleine face, vous n'avez pas écarté les bras et levé le menton, vous allez vous mettre en boule, vous allez réduire votre surface au vent en fait, tout simplement, et là les plantes font pareil.
Charles-Henri vous dit, est-ce qu'on a des plantes spécifiques à chaque versant?
Alors, ce qu'on appelle effectivement adret pour les versants ensoleillés et ubac pour les versants à l'ombre. Et oui, cet effet de versant est très très marqué en altitude. Et plus on monte, il faut bien dire que moins on trouve de plantes en ubac, c'est-à-dire à l'ombre, en fait, côté nord, où là les conditions sont toujours trop trop raides, pas assez de lumière, trop de glace, en gros pas assez d'eau liquide en mouvement, et encore moins pour la présence de sol, bien sûr. Donc oui, il y a des différences, et plus on est haut, plus les différences sont marquées, tout simplement. Il y a des espèces côté sud, il n'y en a plus côté nord.
Une dernière question en 30 secondes. Constance, comment peut-on préserver la biodiversité des hautes montagnes? Déjà, est-ce que ces plantes dont on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'elles sont menacées, ou est-ce qu'elles sont encore préservées là où elles se trouvent, Sébastien?
Oui, bon, ça c'est un peu compliqué de présager maintenant de l'état des menaces sur l'ensemble de ces espèces-là. Je pense que oui, globalement, il y a certaines espèces qui sont menacées par les changements climatiques, puisqu'elles sont adaptées à des climats plus froids en moyenne. Mais c'est certainement dans un avenir plutôt lointain. Comment protéger les hautes montagnes? Moi, je pense qu'il faut plus d'air protégé, tout simplement, et peut-être même un peu moins de stations de ski.
Merci Sébastien Lavergne et Cédric Dantan. Voilà qui fera réfléchir et réagir. Je rappelle que le Muséum de Grenoble présente jusqu'au 26 août l'exposition sur les îles du ciel. Donc c'est au Muséum de Grenoble. Et puis le film d'Olivier Alexandre sur les îles du ciel sera projeté le jeudi 9 août à 21h à la maison du parc du Bourdoisan. Cédric Dantan, votre ouvrage Flora Verticalis, paru aux éditions Le Naturographe, pourrait être très utile à notre invité de la deuxième heure. Je vous la présente. Anne Vallès, bonjour.
Bonjour.
Écrivaine, vous avez entrepris une marche de près de 400 km dans les Alpes en essayant d'emprunter le chemin que prenaient les bergers et leurs bêtes au temps des transhumances. Vous racontez votre périple dans un livre intitulé « Haute solitude sur les traces des transhumants » aux éditions de la Table Ronde. Et vous allez donc nous raconter ce périple dans un instant. On est ravis d'être avec vous.